À voix nue, Emmanuel Loyer, je m'entretiens avec
Monique Lévi-Strauss.
Deuxième épisode, Dans la gueule du loup. Monique Lévi-Strauss, on vous a suivi hier dans le judéo-passy des années 30, où vous avez grandi. Entre 14 et 19 ans, vous passez les années de guerre dans l'Allemagne nazie, jusqu'en 1945, alors que votre mère est juive. C'est une situation vraiment dramatique, incongrue, qui infléchit cette enfance bourgeoise que vous nous avez racontée et transforme d'une certaine manière la jeune fille que vous êtes lorsque vous vous extrayez presque miraculeusement de la nasse nazie. Vous êtes une experte ou vous êtes devenue une experte de la survie en milieu hostile. Cet épisode extravagant, vous l'avez raconté dans un livre publié en 2014 qui s'appelle « Une enfance dans la gueule du loup ». Comme si, des décennies après, il vous fallait revenir sur ce moment fondateur. Donc je vous propose, durant cette deuxième émission, de nous arrêter sur ce moment allemand. Est-ce que vous pouvez nous raconter, d'abord je sais que vous arrivez à Düsseldorf et que vous vivez là dans une pension de famille. Quelle était l'ambiance ?
Eh bien, dans cette pension de famille, les pensionnaires, pour la plupart, étaient des hommes célibataires qui exerçaient une profession libérale, des avocats et puis des historiens, des gens comme ça, qui avaient un poste, soit dans un... Enfin, il y avait des professeurs qui avaient un poste dans des lycées, et puis des avocats qui étaient en partie de semaine à Düsseldorf et en partie de semaine à Francfort, par exemple. Voilà, c'était donc des professions libérales. Et nous mangeions tous autour d'une grande table ronde. Et comme c'était en Allemagne nazie...
On est en 1940, là.
On est en 1940. Eh bien, aux heures des repas, il y avait toujours des discours de Goebbels, d'Hitler, de Göring, et naturellement... Il fallait écouter ces discours, donc on se taisait, on écoutait les discours, et je voyais bien la tête de nos voisins qui trouvaient ça épouvantable. Simplement, en Allemagne nazie, si on ouvrait la bouche pour dire quelque chose contre le régime, on disparaissait tout de suite après. Ça, on savait qu'on serait dénoncé et pris tout de suite. Il y avait... Tout le monde le savait, donc personne ne parlait. Et personne ne commentait. Mais je voyais bien à la tête des uns et des autres qu'ils trouvaient ça épouvantable quand même, ce qu'on entendait à la
Mais donc
radio.
Votre père, qu'est-ce qui lui est arrivé? Enfin, dès le début, il a compris qu'il s'était complètement fourvoyé.
Non, mon père n'habitait pas avec nous. Mon père ne travaillait pas à Düsseldorf, il travaillait dans la Ruhr et il trouvait que c'était mauvais pour le poumon de ses enfants d'habiter la Ruhr. Donc, il nous avait mis à Düsseldorf. C'était aussi une façon d'être un homme libre quand même 5 nuits sur 7. Donc, je pense qu'il y voyait des avantages. Mais enfin, ça, j'ai compris ça plus tard.
Mais vous avez compris en arrivant que votre père avait fait quand même une erreur majeure. Votre père.
Enfin, si vous voulez, moi, j'avais été... contre, puisque j'avais déjà été en Allemagne comme échange avec une étudiante en 38. Et là, j'avais déjà trouvé que c'était épouvantable ce qu'on entendait. Je n'avais aucune envie de vivre en Allemagne, mais il n'y avait rien à faire. Mon père disait, je veux que vous appreniez l'allemand, c'est une langue nécessaire à la culture.
Mais très vite, il est interné, enfin il est...
Arrive le 10 mai 40.
Oui, c'est ça, parce qu'on a dit 1940, on n'a pas dit les mois, ce qui est quand même très important dans l'année 40.
Oui, parce que nous, on était en Allemagne depuis 39, la guerre n'était même pas déclarée. On était à Wesel. Wesel, c'est presque à la frontière de la Hollande. C'est au bord du Rhin. C'est une petite ville où on faisait du bateau, du tennis. Voilà, c'était très agréable. Et puis, pour qu'on ait de vraies études, ensuite, il nous a installés à Düsseldorf. Et à Düsseldorf, c'était une vie normale jusqu'au 10 mai 40. Et alors, le 10 mai 40, on a cherché mon père, on l'a mis en prison. Donc il a été en prison pendant 8 jours et ensuite interné dans un camp. Et ne gagnant plus d'argent, et nous on était dans une très bonne pension de famille à Düsseldorf, c'était impossible de payer la pension puisqu'on n'avait aucun argent et que comme c'était la guerre, ma mère ne pouvait pas demander de l'argent en Amérique. On n'avait plus aucun rapport.
Vous étiez complètement coincé.
Complètement coincé, sans argent. Donc ma mère n'a fait ni une ni deux. Elle est allée à l'école Berlitz et elle a dit « Je parle couramment le français et l'anglais, je suis prête à donner des cours ». Or, ça tombait bien, puisque les professeurs en dessous de 35 ans à l'école Berlitz, ils étaient mobilisés. Les hommes. Donc, il manquait de professeurs. Ils ont dit, on va vous mettre à l'essai. On a mis ma mère à l'essai. On lui a dit, autant d'heures que vous voulez. Et elle donnait 7 heures de cours par jour. Ça ne vous étonnera pas si je vous dis qu'elle est tombée très malade au bout de quelques semaines. Personne ne peut donner 7 heures de cours par...
Donc, elle est tombée malade et vous vous êtes retrouvée avec votre frère en position de chef de famille, quasiment.
Oui, et puis toujours dans cette pension. Enfin, heureusement, elle s'est sortie là et elle a pu donner quelques cours et gagner un peu d'argent. Mais c'était vraiment catastrophique. Et là, je dois dire que nous avons eu beaucoup de chance parce que les Allemands comprenaient la situation de ma mère. Et ils ne parlaient pas, ils ne faisaient aucun commentaire puisque les commentaires sont... Enfin, auraient montré leur opinion. Et c'était des Allemands qui étaient contre Hitler. Beaucoup d'Allemands étaient contre Hitler. On a du mal à me croire quand je le dis maintenant. Et beaucoup d'Allemands cultivés étaient contre Hitler, mais ils n'ouvraient pas la bouche.
Donc vous avez continué, vous étiez scolarisé, oui. Mais quand même la situation s'est dégradée de plus en plus, même sur le plan matériel.
On ne pouvait pas rester dans la pension, oui. On n'avait pas de quoi la payer. Donc, des amis, enfin, j'ai eu la chance, j'ai été amie avec des personnes qui avaient des grands appartements, qui avaient beaucoup de sympathie pour moi. Ils ont compris qu'on était dans la dèche et on nous a logés chez les uns et les autres, parce que c'était impossible de payer la pension. Enfin, on s'en est tiré, si vous voulez, grâce à la bonté de certaines personnes. Et ma mère, naturellement, donnait des leçons de français et d'anglais autant qu'elle pouvait pour gagner de l'argent. Et mon père était toujours en camp, hein, pendant... Ça a duré un an. Et après, il ne gagnait toujours pas d'argent.
Vous m'avez dit à plusieurs reprises que, durant ces années de guerre, comme d'autres d'ailleurs, pas seulement en Allemagne, vous avez connu quelque chose qui aujourd'hui est difficilement imaginable finalement, vraiment, c'est-à-dire la faim.
Ah ben, quand on était dans la pension de famille, on était bien nourri parce que le patron était boucher. Alors, si vous voulez, il échangeait de la viande contre tout ce qu'il voulait. Ça, c'était une monnaie d'échange formidable. Mais une fois qu'on n'était plus en pension et qu'on a vécu dans un petit appartement loué...
Toujours à Düsseldorf ?
Toujours à Düsseldorf. Ben oui, nous étions en classe, mon frère, oui. et moi. Et puis, il fallait qu'on reste en classe. Parce que si on n'avait pas été en classe, on aurait été mis dans le travail obligatoire. Il ne fallait surtout pas se faire renvoyer. Le travail obligatoire, c'était immédiat. À 15 ans, on était enrôlé tout de suite. Donc, il fallait en plus qu'on aille à l'école et qu'on ne se fasse pas renvoyer.
Et donc, la faim. Parce qu'on a parlé parfois ensemble de ce oui. livre que vous aimez et que j'aime aussi, Une femme à Berlin, où elle parle, oui. elle dit qu'on pense avec l'estomac.
Ah ben oui, j'ai adoré ce livre qu'elle a écrit, parce que c'est vrai que la faim, ça prime tout. Quand on a faim... Mais on est prêt à faire n'importe quoi. C'est horrible, la faim. Oui, donc, on n'avait vraiment rien à manger. Et puis, il y avait des camarades. Parfois, ils revenaient de la campagne. Ils ramenaient de la nourriture. Mais parfois, ils me ramenaient des jonquilles. C'était beau. Ça me faisait... Enfin, ça m'attendrissait. Mais si vous voulez, ça ne faisait rien, la faim. Enfin, on a eu très faim.
Et surtout les 2 dernières années de la guerre. Au début, ça allait, mais ensuite...
Oh non, mais non, même au début, parce que tout était rationné et c'était dur de s'en tirer. Mais les uns et les autres étaient gentils. Parfois, on nous donnait un saucisson, vous voyez, parce que nous étions dans un joli quartier à Düsseldorf. Nous avions loué un petit appartement, mais au bord du Rhin. Et il y avait des bourgeois qui avaient des très belles maisons à la campagne. Et quand ils revenaient le lundi, ils ramenaient un saucisson. De temps à autre, on me filait un saucisson. Bon, ça, alors, c'était les grands jours, vous voyez.
Bon. Assez tôt, dès la fin 1942, en Allemagne, ça c'est une autre chose qui fait partie de l'expérience de guerre allemande, ça commence à bombarder et évidemment, en 43 et 44, toute l'Allemagne va être quasiment rasée par les bombardements. Donc ça c'est une autre chose que vous avez apprise.
Alors ça c'est, si vous voulez, le fait de vivre sans vitre. Donc on a vraiment vécu sans vitre. C'était du contreplaqué. Et il faisait noir à l'intérieur, et puis toutes les nuits, on descendait à la cave, c'est-à-dire qu'on ne se déshabillait jamais le soir, puisqu'il fallait descendre dans les caves pendant une heure ou deux. On n'enlevait que ses chaussures, hein. Mais on se mettait au lit en hiver avec manteau, et même la capuche sur la tête, et puis quand l'alarme sonnait, il n'y avait qu'à mettre ses chaussures, et puis on descendait à toute allure.
Et ça, c'est une expérience de terreur, j'imagine.
C'était presque toutes les nuits. Et on ne pouvait pas rester en haut parce que les bombardements, vous savez, quand il y a 40 bombardiers qui arrivent sur une ville et qui lâchent d'un seul coup des bombes, il n'y a aucun secours, il n'y a rien. Si vous êtes blessé, personne ne viendra parce qu'il y a tant de blessés d'un coup. Donc on savait que le seul moyen de s'en sortir, c'était vraiment de descendre à la cave à tous les coups.
Oui, c'est ce qu'elle raconte aussi dans Une femme à Berlin, cette sociabilité de la cave. Finalement, on n'appartient plus qu'à ce petit groupe qui, toutes les nuits...
Toutes les nuits, on se retrouve et personne ne serait resté en haut. Ah non.
Et ça, c'est en France, il y a eu évidemment des bombardements. Il y a eu des villes bombardées, Le Havre, mais pas de la même manière.
Ah, mais ils plaisantaient pas, hein, les Anglais. Ils venaient, ils allaient bombarder la Rhénanie et vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est toutes les nuits, toutes les nuits.
Alors ensuite, à un moment donné, vous déménagez, je crois, près de la frontière à Prüm.
Oui.
Alors ça, pourquoi, comment et quand en fait?
Ça, c'était parce que les villes étaient tellement bombardées qu'il n'était pas question d'y rester.
Voilà.
Donc on a fait comme tout le monde, on a fui à la campagne. Mais il fallait fuir à un endroit où un lycée était atteignable. Parce que je vous dis, si on n'avait pas été au lycée, mon frère et moi, on était immédiatement obligés de travailler en usine. Donc, on avait trouvé un endroit dans l'Eifel. L'Eifel, c'est un territoire qui est au nord de Trèves, à la frontière du Luxembourg. Là, dans un hôtel, on avait trouvé, pour quelques semaines, deux chambres. Et puis, on a trouvé chez l'habitant de quoi se loger. Et il y avait un grand lycée dans un ancien monastère très célèbre à Prüm. Ce grand lycée, pour garçons et filles, nous a accueillis, mon frère et moi, dans des classes. Donc, nous allions au lycée en prenant le train à 6h38, je me souviens, le train. On arrivait à 7h15. À Prüm, et on attendait que le lycée ouvre à 8 heures.
Donc là, vous avez fait les années du baccalauréat, de l'abitur. Vous avez passé votre abitur à Prüm.
Oui, j'ai passé l'abitur à Prüm, c'est ça. Et
Donc là, vous parliez bien allemand. Votre père aurait pu être... Là, c'était votre allemand, vous l'avez conquis.
Non seulement je parlais bien allemand, mais quand j'ai voulu retrouver du travail à Paris après, on m'a dit oui, mais j'ai trouvé du travail à la radio. Mais dès qu'on m'a entendu, on m'a dit vous avez un tel accent allemand que ça ne va pas marcher. On peut vous prendre pour faire les nouvelles, mais vous ne pourrez jamais être speakerine à la radio. Donc j'ai dû perdre mon accent en un mois. Mais ça se perd, un accent. Hein.
En tout cas, vous avez quand même réussi à passer le bac en fin de guerre et dans cette situation.
Oui, j'ai très bien passé le bac, si vous voulez. J'étais même assez bonne élève.
Et personne ne soupçonnait quoi que ce soit. Votre mère était juive, elle était toujours avec vous. Et vous l'avez même baptisée pendant la guerre, apparemment.
Je me souviens, elle était plongée dans Saint-Ignace de Loyola. Ça a été grande période mystique de ma mère. Et elle y a pris tellement goût, à Saint-Ignace de Loyola, qu'elle m'a dit « Mais tu sais, au fond, j'aimerais bien devenir catholique. Mais je ne peux pas aller trouver un prêtre et lui dire la vérité. Je sais qu'il y a une chose que je ne peux pas dire, c'est que je n'ai pas été baptisée et que je suis juive. Je ne peux pas dire ça à un prêtre, puisqu'il pourrait, sur le grill, il pourrait me dénoncer. Donc, comme je ne peux pas trouver un prêtre, eh bien, ma mère a dit, j'ai lu tous les écrits de l'Église et je sais qu'un catholique, dans une situation où il n'y a pas de prêtre, peut prendre sur lui de baptiser. Alors ma mère m'a demandé de la baptiser. Alors là, je peux vous dire, bon, je me suis dit, elle y va fort. Bon, et elle m'a dit, je te demande, voilà, c'est un service que je te demande. Alors j'ai lu, parce qu'il y a des textes qui disent comment agir, donc j'ai lu.
Les gestes à faire, les mots.
Les gestes, les mots. J'ai dit tous les mots qu'il fallait dire. J'ai fait tous les gestes. J'avais été chercher de l'eau bénite à l'église. Le prêtre a dû se demander pourquoi. Mais enfin, je n'ai pas donné d'explication. Et ma mère m'a dit, je serai plus heureuse si je suis baptisée. Donc, j'ai baptisé ma mère.
Il n'y a jamais eu de délation contre votre mère juive dans cette Allemagne nazie. C'est quand même extraordinaire.
Personne ne la connaissait. On ne connaissait pas un chat.
D'une certaine manière, c'est ça qu'à un moment, vous dites ça et c'est très troublant.
Oui.
C'est vrai que le fait que personne ne vous connaissait vous a, d'une certaine manière, protégé au cœur de vraiment la machine nazie.
Il n'y a pas une personne qui aurait pu dire « oui, je l'ai connue d'avant ».
Voilà. Donc c'est bizarre parce qu'en même temps, vous seriez resté dans le Paris des années 40, mettons,
dans le 16e. Nous vivions à Bourges. À Bourges, tout le monde savait que ma mère était juive.
Voilà.
Puisque nos meilleurs amis, c'était les blocs du Monoprix. Alors si vous voulez, et qui étaient juifs forcément. Et tout le monde savait que ma mère était juive. Ça ne faisait aucun pli. Aucun.
Donc, vous êtes en train de nous dire, c'est que d'une certaine manière, c'était presque plus facile de se cacher.
Oui.
Enfin bon, ça, c'est les paradoxes qui existent. Hein,
mais mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on aurait très bien pu, sans méchanceté, ma mère aurait très bien pu dire à des Allemands ou à des pétainistes que ma mère était juive, mais sans malveillance. Donc, on courait un grand danger si on restait à Bourges. En Allemagne, aucun, personne.
Enfin, aucun, vous charriez un peu, peut-être, là. Mais aucun
non.
danger, c'est peut-être
non,
un peu exagéré.
Mais aucune personne, aucun ne le savait.
Oui, je comprends.
Donc là, ça allait très bien. Puis on avait de la chance. Mon frère n'avait pas été circoncis. Ma mère avait dit, c'est vraiment pas la peine, je vois pas pourquoi, on n'est pas croyant. Et il n'a pas été... Ça, parce que s'il avait été... Ça aurait été la fin de tout, hein.
Vous restez donc en Allemagne et donc vous vivez aussi la fin de la guerre et l'arrivée des armées alliées. Vous étiez germanophone, ça c'est sûr, mais vous étiez aussi anglophone. Donc
et francophone.
Et francophone, bien sûr. Oui. Là, on se retrouve un peu dans un autre film, je dirais, dans l'imaginaire.
Alors là, on se trouve dans un film où les Américains avancent, ils arrivent en Allemagne et à Francfort, on leur dit, il y a une Américaine qui... habite au bord du Rhin à Assmannshausen. Et alors ils ont dit, on veut la voir. Et l'Américaine, c'était ma mère. Elle avait un passeport américain, ma mère. Et donc, les Américains sont venus, ils ont vu ma mère, ils m'ont vu, et les Américains ont une chose en commun, ils ne parlent aucune langue étrangère. Ça, c'est absolu. Si vous voulez, ils ont de l'argent, ils s'offrent des interprètes, mais jamais ils n'apprennent une langue étrangère. Donc l'armée américaine était très, très en mal d'interprètes. Ils n'avaient personne. Alors les Américains, quand ils ont su qu'il y avait une Américaine, là, ils se sont précipités et ils m'ont vu et ils ont vu que je parlais les langues, que je parlais parfaitement l'anglais et ils ont demandé à mon père, est-ce que nous pouvons prendre votre fille comme interprète? Et mon père, il m'a vraiment, enfin, plus qu'agacé, il a dit oui si vous me donnez du tabac.
Ah oui, il vous a vendu un peu.
Il m'a absolument vendu. Il m'a dit, vous pouvez avoir ma fille, mais si vous me donnez du tabac. Bon, je sais que c'était une plaisanterie belge, mais ça va un peu trop loin, là. La plaisanterie belge, elle avait dépassé les bornes, là.
Oui.
Il a eu du tabac, hein, parce que je peux vous dire, les Américains ont dit, vous aurez tout le tabac que vous voulez. Ça, vous pensez de trouver quelqu'un qui parlait les trois langues.
Et alors, vous êtes allé, vous avez accompagné, du coup, les armées américaines
Alors, c'était un capitaine américain qui était à... Il était à Mainz, disons. Et il a dit, mais je vous emmène avec moi, j'ai trop besoin de vous. Vous serez dans ma voiture toute la journée et c'est vous qui ferez l'interprète. Et naturellement, on était encore en pleine guerre. Hein. Et... il m'a donné une chambre à côté de la sienne et son aide de camp couchait à ses pieds parce que, en temps de guerre, si vous voulez, un officier a besoin d'un aide de camp qui est à côté de lui et qui ne se déshabille pas, qui est armé tout le temps. L'officier peut se mettre en pyjama, mais son aide de camp est habillé prêt et il a toujours une arme sur lui, en dormant par terre à côté de lui. Bon, et alors, on m'a donné une chambre à côté, et puis, enfin, le capitaine a commencé à me faire la cour et tout ça, et je lui ai dit, écoutez, non, il y a la guerre, et on a des choses quand même plus importantes à faire, on va être sérieux. Et il a accepté. Donc, ça a bien marché avec le capitaine, et je n'ai pas quitté ce capitaine, là, pendant 7 semaines, j'étais avec lui, il avait une très belle voiture décapotable, j'étais à côté de lui tout le temps. Et on s'est très bien amusé. Je veux dire, il a été correct. Parce qu'une fois que je lui ai dit qu'on allait... Non, on n'allait pas avoir une aventure, que c'était vraiment pas le moment. Parce qu'il m'avait parlé de sa femme et de ses enfants qu'il adorait. J'ai dit quand même, vous avez mieux à faire. Il a été sérieux, donc on a été très communs. Je veux dire qu'on a passé un temps merveilleux ensemble.
Alors Monique, 50 ans après, presque 50 ans après, ou même un peu plus d'ailleurs, vous êtes revenue sur toute cette période de guerre et vous avez écrit un court texte, vous appelez ça « Vos souvenirs décharnés ». C'est le livre « Une enfance dans la gueule du loup ».
Oui.
Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce texte si longtemps après et comment est-ce qu'il a été reçu en France, déjà, pour commencer ?
Je dois dire, les gens n'éprouvaient pas un grand intérêt à revenir sur cette période. Non, je ne peux pas dire que les gens ont trouvé ça extraordinaire, non.
Les gens, vous voulez dire qui ? Parce que vous aviez une expérience de guerre très, très, très particulière.
Oui, alors, mon éditeur...
Maurice Hollander,
lui avait été passionné par ça. Il avait trouvé que c'était vraiment très intéressant. Mais enfin, lui était juif et il avait tout compris. Et il trouvait que c'était une histoire passionnante. Mais le grand public, je ne peux pas dire que le grand public se soit passionné. Non, non. Et il y a eu quand même 12 000 exemplaires de vendus. Ce n'était pas un ratage. Mais enfin, ça n'a pas été un grand succès.
Bah, disons que ça correspondait quand même à rien, d'une certaine manière. Et c'était assez contre-intuitif. Et aussi, ce qui est un peu étonnant, voire scandaleux, et ça, c'est que vous ne jugez pas vraiment les Allemands collectivement responsables. Enfin, dans l'histoire de la mémoire allemande du nazisme, vous êtes plutôt pour dire il y a des niches, tout le monde n'était pas pris dans cette société totalitaire.
Mais imaginez 80 millions de personnes. 80 millions de personnes ne peuvent pas être tous des dégoûtants. C'est pas possible. C'est pas comme ça, la vie. Et en Allemagne, il y avait le même pourcentage qu'en France et ailleurs, c'est-à-dire un petit pourcentage de personnes odieuses absolument, vous voyez, les gens de la Gestapo et tout ça, enfin, des criminels, mais tout le peuple allemand n'était pas des criminels, loin de là. Et je dirais que, comme dans n'importe quel pays, il y avait une bonne moitié des gens qui étaient des gens, enfin, qui pensaient à leur famille et qui étaient assez dégoûtés par ce que faisaient les nazis. Il n'y a aucun doute.
Enfin, il y avait eu 10 ans de lavage de cerveau quand même un peu avant, mais c'est intéressant en tout cas comme témoignage.
Oui, mais si vous voulez, ceux qui avaient 50 ans, on ne leur lavait pas le cerveau. Mmh. Ils avaient très bien jugé, mais comme c'était la peine de mort, si on ouvrait la bouche, ils n'ouvraient pas la bouche.
Et alors, votre livre va être publié en allemand, traduit en allemand et publié en Allemagne quelques années après, hein. Et là, justement, c'est cette vision des choses scandalise un peu la génération des années des boomers, quoi. Oui. Enfin, de ceux qui ont 20 ans dans les années 60, des gens qui
même plus ceux qui ont dans les années 60, ceux qui avaient 30 ou 40 ans. Moi, en Allemagne, on m'a dit que mon livre était un très mauvais livre. C'est même la traductrice des livres de mon mari chez Suhrkamp. Elle avait beaucoup d'admiration pour Claude Lévi-Strauss et elle trouvait que mon livre était très très mauvais. Parce que pour elle, il y avait une chose qui était sûre, c'est que on pouvait pas dire qu'il y avait des Allemands bien avant la guerre. Pour elle, tous les Allemands étaient nazis. Et elle pensait ça parce qu'elle se disait, si nous, les Allemands, nés après la guerre, nous disons que les Allemands qui étaient vivants sous Hitler étaient des salauds, nous nous disculpons. Nous disons, tous ceux-là étaient des salauds puisqu'ils ont voté pour Hitler et c'est nous qui sommes les bons qui sommes venus après.
C'est aussi une génération, je pense, qui a voulu lutter un peu contre une forme d'amnésie allemande, parce que malgré tout, il n'y a pas eu de dénazification
mais c'est aller un peu fort que dire que tous les Allemands d'avant étaient tous des nazis. Vous pensez bien que c'est pas vrai.
Enfin, finalement, vous avez quand même été invité à venir présenter votre livre. Vous êtes retourné à Prüm il n'y a pas très longtemps. Quelle impression ça vous a fait, tout ça?
Quelle impression ça m'a fait. Tout le temps, je me disais, j'ai eu quand même une veine formidable de m'en sortir. Oui. C'est ça qui prime, parce que Dieu sait, enfin, on était en pleine guerre, là, enfin, tout ce qui aurait pu arriver. Non, enfin, je trouve que j'ai vraiment eu de la chance, hein.
C'était À voix nue, Monique Lévi-Strauss. Réalisation Jean-Philippe Navarre, chargé de programme Daphné Abgral. Une série proposée par Emmanuel Loyer, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.